bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne, un livre par semaine en compagnie de Pascal Blazy. Et Pascal Blazy aujourd'hui va nous parler du livre d'Olivier Adam, Les Lisières. Bonjour Pascal.
Eh bien bonjour. Donc dans ce roman, Paul Steiner retrouve son enfance. Donc accompagnons-le à un petit bout de chemin. Le voici de retour dans sa banlieue. J'ai dérivé dans les rues calmes que la lueur des réverbères rendait orange, le portable à l'oreille. À l'autre bout, mon frère aussi était couché. Je l'avais même réveillé. Qu'est-ce qui justifiait qu'on puisse être au lit à cette heure? Je n'en savais rien. « Le travail !» m'a-t-il répondu sèchement. « Le travail! Il y en a qui bossent, vois-tu. Je sais que ça peut te sembler bizarre, que ça fait longtemps que ça ne t'est pas arrivé. » Je n'ai pas relevé. Ça faisait des années que dans le cercle familial, pour mes parents, comme pour mon frère, il était convenu que je ne travaillais pas, que j'étais en vacances perpétuelles ou à la retraite. Et notre départ pour le bord de mer n'avait fait que confirmer cette impression. La plupart du temps, quand ils m'appelaient, je leur répondais les pieds dans le sable ou cheminant sur les sentiers surplombant les flots. Et quand je ne répondais pas, ce n'était pas que j'étais plongée dans l'écriture de mon prochain roman, mais parce que j'étais dans l'eau, frayant parmi les îlots et les cormorans en kayak ou nageant en longeant la plage qui s'étendait au bout de notre rue. Je ne pouvais pas leur en vouloir, surtout à mes parents. Je ne pouvais pas leur donner tort. En comparaison de ce qu'ils avaient vécu, leur vie d'atelier de bureau, les 3-8, la pointeuse, le bruit des machines, les journées abruties, les petits chefs et le reste, écrire des livres n'était pas du travail, et en vivre n'était rien d'autre qu'un luxe, une fleur que vous offrait le destin et dont il convenait d'être digne. Se plaindre d'écrire, des difficultés qu'on rencontrait en composant un roman, des affres de la création et des souffrances associées, m'avait toujours paru tout à fait indigne, indécent même. Rien ne m'agaçait tant que d'entendre à la radio des écrivains se plaindre de leur sort, étaler leurs souffrances au travail. « Si tu souffres tant que ça, fais autre chose », avais-je envie de leur répondre. Et dans mon crâne, j'imaginais mon père, brûlant, de les envoyer à la mine, afin qu'ils comprennent ce que bosser voulait dire. Nous avons échangé quelques considérations concernant notre mère et son état de santé, le dévouement des infirmières, le professionnalisme des médecins, leur avis et leur diagnostic. J'acquiesçais sans broncher. François était vétérinaire et se prenait un peu pour un médecin. De fait, il entretenait avec ses collègues une forme de fraternité et de solidarité qui m'amusait mais interdisait toute critique. Je connaissais ça sur le bout des doigts. Sarah travaillait à l'hôpital, elle aussi, et sitôt qu'on se plaignait d'une infirmière un peu rêche, d'une aide-soignante pas aimable, d'un médecin trop sec, elle partait en boucle et vous ensevelissait sous les dures réalités de son métier, le contexte dans lequel tous ces gens exerçaient leur profession. La maladie, la mort, la détresse, la souffrance au quotidien, le manque de moyens et l'usure, leur engagement au service d'autrui pour des salaires de misère, quand tant d'autres s'en foutaient plein les poches en vendant n'importe quelle connerie, en se contentant de regarder travailler leur agent ou celui des autres, quand il ne s'agissait pas de dispenser de coûteux conseils sur la meilleure façon d'entuber le fisc, et il n'était pas difficile alors de savoir vers où portait son regard. À la fin, il me fallait convenir que oui, après tout, tous ces gens avaient bien le droit parfois de faire preuve d'impatience, oublier d'enfiler des gants, laisser transparaître leur fatigue. Du reste, je la soupçonnais de n'avoir jamais pensé, elle non plus, que mes activités littéraires constituaient véritablement un travail. Moi-même, je n'en étais pas convaincue. Et bon, nombre de nos dissensions provenaient de ce que justement ce travail était difficile à appréhender, qu'il ne connaissait ni horaire ni repos. À table, sur la plage, dans notre lit, en vacances, en ville, j'y étais encore. Quand j'écrivais un roman, j'y étais en permanence. Et mon absence naturelle s'en trouvait comme décuplée. Si bien qu'il fallait m'appeler 10 fois pour obtenir mon attention et me répéter 5 fois la même information pour qu'elle intègre mon cerveau. J'ai pris des rues bordées de cerisiers en fleurs, foulé des trottoirs prunes, longeant des pavillons aux rideaux fermés, aux volets clos, des vies cachées, enfermées à double tour. C'étaient des rues familières que j'avais parcourues en tous sens pendant des années, dérivant à vélo d'une maison à une autre, d'un quartier à un autre, d'un lotissement à une maison crépie, d'un petit bloc d'immeuble à une cité HLM, du supermarché à la bibliothèque, du collège à la forêt, de la piscine au club de tennis, de l'épicerie au bar des parents de Yann, dans l'ennui profond des dimanches après-midi. Je suis passée devant la maison d'Éric, tandis que mon frère me parlait de la nôtre, de la décision qu'avait prise notre père de la vendre au plus vite, maintenant du déménagement qu'il prévoyait pour bientôt dans la résidence pour personnes âgées qui se planquait en bas de la ville, protégée de l'autre cité de la ville dite des Acacias, qu'on avait entièrement rénovée 10 ans plus tôt et qui déjà de nouveau se désagrégeait et tombait en lambeaux par une poignée de grands arbres et une rangée d'immeubles bas, autrefois commerçantes, où ne survivait plus qu'une boucherie au milieu des vitrines barrées d'un écriteau, bail à céder, à vendre, à louer. Comment ça, déménager bientôt? Un appartement vient de se libérer et il ne faut pas traîner pour ce genre de choses. Il va visiter demain.
Demain? Mais putain, il m'a rien dit! Mais comment tu l'as su?
Tout à l'heure. Il m'a appelé avant le dîner. Il m'a dit « Paul est parti traîner en ville, bon Dieu. Où as-tu pu traîner? Y a rien. » La nostalgie, camarade. La nostalgie? La nostalgie, c'est quand on regrette. Quand j'étais gamin, moi, je regrettais déjà. Mais ce que je regrettais, c'était de ne pas être né ailleurs. « Oh ben ça va, t'as pas mal réussi. Tu t'en es bien sorti. T'as raison. Je comprends pas. Je suis là et papa m'en a même pas touché de mots. Je sais. Mais qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas l'habitude. On ne peut pas dire que tu te sois beaucoup occupé d'eux ces 20 dernières années. Et avant ça, c'est de toi qu'il fallait s'occuper. Comment ça? Tu sais bien, tu étais le gamin fragile, hypersensible. Enfin, c'est ce que maman disait, qu'il fallait te protéger. » Quand je te vois maintenant avec tes airs de rugbyman, ça me fait bien marrer. Un rugbyman qui boite? Ouais, qui boite, mais l'autre fois je t'ai vu à la télé. Il était loin, le poète blême et souffreteux de notre jeunesse. Nous sommes en train de lire Les Lisières d'Olivier Adam. Une lumière s'est allumée au front de la maison d'Éric. C'était un petit pavillon banal, crépi de rose et mitoyen au volet peint en vert. Dans le jardin, tout avait poussé. Il y avait maintenant de vrais arbres, des arbustes robustes, et la pelouse semblait usée par le temps, mangée de mousse et de trèfle. Je me souvenais encore du jour où ils avaient emménagé. Tout était neuf. Dans la terre brune se dressaient 3 troncs chétifs, soutenus par des tuteurs. À l'intérieur aussi, tout était neuf. Carrelage crème, mur blanc, canapé lit, en tissu, un motif, et meubles noirs achetés chez Butte. La chambre d'Éric était tapissée de voitures de rallye, des 205 Peugeot, sautant des dunes à l'infini, que couvraient par endroits des posters de Yannick Noah, Jimmy Connors et Mats Wilander. De mon côté, je préférais Stefan Elberg et Boris Becker. De la 6e, alors qu'ils vivaient encore dans la cité jusqu'à la terminale, nous avions été inséparables. Puis j'avais disparu, sans plus jamais donner de nouvelles. J'avais coupé les ponts. Sans raison, avec lui, comme avec tous les autres, la bande du collège et ceux du lycée. Plus tard, en quittant la fac, j'avais fait pareil. Et idem encore quand j'avais tiré un trait sur le monde du travail. Ma vie était faite de blocs successifs et indépendants les uns des autres, des morceaux qui ne se joignaient pas, dont ne subsistait aucun témoin continu. Ce que je craignais désormais, c'était que la période Sarah ne se referme définitivement et que je ne disparaisse peu à peu aux yeux des enfants qui ne tarderaient pas à me considérer comme une connaissance lointaine et s'en remettraient vite à celui qui allait me remplacer auprès d'elle. Tu savais que tu m'avais sauvé la vie?
Quoi?
Quand j'avais 10 ans. C'était l'année où les parents avaient loué dans un village vacances aux 2 Alpes. Ça leur avait coûté un bras, mais maman disait qu'elle en avait marre du camping, de la caravane et des lits qui lui faisaient mal au dos, des douches collectives et de la vaisselle au bac. C'était l'année de la mort de mamie. Alors papa avait dit « Ok, on va se faire plaisir pour une fois ». Ouais, je me souviens. C'était atroce cet endroit. Je préférais encore le camping. Moi aussi. De toute façon, j'adorais le camping. Je veux dire, si on ne t'avait pas dit un jour que c'était un truc de prolo, avec tout le mépris que ça suppose, t'aurais su que c'était censé être bof, toi? Moi, je trouvais qu'on avait une chance dingue. On partait en vacances, c'était déjà pas rien, merde. Les vacances au camping, c'était déjà au-dessus de nos moyens. Mais papa disait toujours, il sera pas dit que je suis pas capable de payer des vacances à mes gosses. On part, et puis c'est tout. Les souvenirs affluent entre les deux frères. Et si vous voulez continuer le voyage en leur compagnie, je vous invite à lire Les Lisières d'Olivier Adam aux éditions Flammarion.